Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette rediffusion des meilleurs moments d'accent avec aujourd'hui la mémoire des Juifs séfarades 512 ans après leur expulsion d'Espagne. Reportage au Portugal et en Espagne. Le moment pop du jour avec Vincent Théval, mais tout de suite la fin du monde pour une fillette britannique.
Happy birthday to you.
Make a wish.
Hello. Bye, Mum.
Sa vie bascule au fur et à mesure que son pays sombre dans la guerre civile. Cette vidéo fiction tournée à Londres a été réalisée par l'association Save the Children pour sensibiliser les Britanniques au sort des enfants victimes du conflit en Syrie. Récit de Marie Billon.
La vidéo s'ouvre sur une célébration. C'est une petite fille qui souffle ses bougies d'anniversaire entourée de sa famille. Et puis la vie reprend son cours, des jeux, et puis des journaux télévisés qui semblent annoncer des nouvelles inquiétantes. La journaliste parle de rebelles, mais on ne comprend pas bien parce que la vidéo ne montre qu'une seconde par jour de la vie de cette petite fille. Ce n'est que lorsque des bombes explosent qu'on comprend que c'est la guerre. À Londres, la petite fille doit se cacher dans sa cave, elle perd ses cheveux à cause des attaques chimiques, et puis en tentant de s'enfuir, son père disparaît. La vidéo se termine sur l'anniversaire suivant de cette même petite fille, le regard perdu, avec sa mère qui lui dit la même chose que l'année précédente, fais un vœu. La vidéo est faite pour choquer, pour faire réagir les Britanniques. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas ici que ça n'est pas en train de se passer, c'est la phrase de conclusion à la fin de la vidéo. En Grande-Bretagne, le public est habitué aux vidéos choquantes, notamment pour les spots de sécurité routière, mais cette campagne est d'un nouveau genre, elle veut donner l'impression que l'impensable est possible. Et d'ailleurs, elle n'est pas destinée qu'aux Britanniques. C'est aux États-Unis et en Pologne qu'elle a été regardée le plus de fois.
Expulsés d'Espagne au XVe siècle, c'est au centre du Portugal que les Juifs ont trouvé refuge au prix d'une conversion au catholicisme en pleine Inquisition. Longtemps ce passé et cette culture juive ont été gommés de l'histoire. 500 ans après, les Judarias commencent à être restaurés et visités par les descendants des Juifs portugais et espagnols installés au Brésil, aux États-Unis et en Israël. L'occasion pour des régions abandonnées de développer un tourisme religieux, c'est le reportage de Marilyn Darcy.
Dans les villages reculés de la Serra d'Estrela, déambuler le soir venu dans les ruelles peut prendre un caractère insolite. À Alvoco da Serra, 450 habitants, les portes d'entrée des maisons sont surmontées d'étranges pierres gravées. On y voit des croix, des signes mystérieux et parfois même des noms. José Levi Domingos qui organise des visites dans la région.
Ici, on voit très bien le nom, Costa. Et la date, 1702. 1702, c'est l'époque des grands bûchers de l'Inquisition au Portugal. Et à côté du nom, on voit le symbole de la christianisation. On distingue aussi la lettre Shin, la première lettre du mot saint en hébreu. C'est très net si on est attentif.
En gravant ces signes catholiques au-dessus de leurs portes, les propriétaires voulaient faire savoir à tous, et surtout à l'Inquisition, qu'ils étaient de bons chrétiens, dûment baptisés et pratiquants. Des pratiquants fraîchement convertis, des juifs qui, après leur fuite d'Espagne, avaient dû embrasser, contraint et forcer la religion catholique au Portugal. À Alvoco, les premiers surpris sont les villageois. José Cardoso et Brito n'avaient jamais vu la croix gravée sur le granit de sa porte.
J'avais bien vu des croix dans le haut du village, mais ici, chez moi, je n'ai jamais rien remarqué. Ce sont mes fils qui me l'ont dit, moi je ne les avais jamais vus. Je ne sais pas si je descends des juifs. Cette maison, je l'ai achetée et j'ai toujours aimé cette pierre autour de la porte. J'ai fait des transformations, mais sans y toucher.
L'inventaire des trésors ne fait que commencer. À Gouveia, une petite ville dans la montagne, une pierre gravée en hébreu fait la fierté du musée local. José Levi Domingos, journaliste et historien.
C'est en hébreu, et la date qui figure, c'est 1496. Cela correspond à l'édit d'expulsion des Juifs par le roi portugais. On n'a pas fait d'autres découvertes plus anciennes. Alors si on en croit l'inscription gravée, la pierre provient de la dernière synagogue construite dans le monde séfarade avant l'expulsion par le roi Dom Manuel Ier.
Pour la première fois, la petite ville a embauché un archéologue. Joël Correa doit dresser l'inventaire du patrimoine juif de la ville. Une rare certitude, après l'expulsion d'Espagne, les juifs ont fait la fortune de Gouveia.
On sait qu'au début du XVe siècle, il y avait 6 juifs autorisés à travailler. Avec leur famille, ça faisait une vingtaine de personnes. Ensuite, quand les juifs expulsés d'Espagne sont arrivés, leur population est montée à 200 personnes. On sait aussi que dans le quartier d'Outeiro, traversé par une rivière, se trouvaient les ateliers des tisserands. C'était l'activité principale des juifs.
Certains descendants de ces juifs convertis ont pratiqué le rite juif traditionnel en cachette jusqu'à nos jours. Récemment, ces communautés sont sorties de l'ombre et se sont converties au judaïsme d'aujourd'hui. Désormais assumé, le passé juif de cette région du Portugal livre ses richesses. À Belmonte, par exemple, un musée juif présente les objets du rite ancien qui ont traversé 5 siècles. Le patrimoine est valorisé, le tourisme religieux devient une aubaine et les produits locaux revivent. À Mantegache, Patricia fait de l'huile d'olive cachée, mais sans que ce soit une question de religion.
On n'est pas assimilé à des juifs. Nous, on fait cette production depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça suscite la curiosité. Les gens veulent savoir comment ça se passe avec le rabbin. Ça, vraiment, ça intrigue. Ce serait très différent si j'étais arrivée ici sans que l'on me connaisse et que je commence à faire de l'huile cachère. Alors là, oui, je serais considérée comme juive.
Dans un terroir où on apprécie le bien vivre, les niches de marché sont variées, notamment pour l'agroalimentaire. À Meda, bourgade aux confins de la Serra, on mise sur le vin. Eduardo Concesson, le jeune œnologue du domaine Val d'Aldeia, est prêt à tenter l'aventure.
On n'en a jamais fait, je n'en ai jamais fait. On vient d'entamer des discussions avec l'autorité juive qui donne la certification. Nous ne voulons pas produire du vin cachère en grande quantité, pas faire des millions de bouteilles. On veut élaborer un produit original et de qualité en s'inspirant de nos racines, du patrimoine qui est riche. On veut faire un vin spécial et viser ces consommateurs qui sont prêts à dépenser de l'argent pour un très bon vin.
Pour le maire de Meda, Anselmo Souza, c'est une chance de développement.
Ici, c'est une petite ville de l'intérieur, une ville oubliée de tous. Alors ces projets, c'est excellent pour le développement de la région. On a beaucoup de vestiges des Joudarias. C'est d'une grande richesse et une plus-value pour notre terroir et nos produits d'excellente qualité.
Des hôtels, des restaurants proposant des produits cachers, la relance de l'artisanat, les projets foisonnent. L'histoire des séfarades, 5 siècles après leur expulsion de la péninsule ibérique, est devenue une manne. Et le tourisme, religieux ou non, sauvera la région du centre d'une désertification totale.
Direction l'Espagne, où le gouvernement réfléchit à une loi permettant à leurs 3,5 millions de descendants de recouvrer la nationalité espagnole 512 ans après l'expulsion des Juifs séfarades. En Espagne, où certains travaillent sur cette mémoire oubliée, enfouie, même si certaines traditions ont continué d'être perpétuées, c'est un reportage de Martine Pouchard.
Thalie est rentrée en Espagne en 1990. Après des siècles d'exil, elle raconte la longue errance de sa famille, l'histoire de cette grand-mère dont le seul trésor était une boîte à bijoux et une grande clé toute rouillée.
C'était une grande clé qui était très laide parce qu'elle était pleine de corrosion. Ce n'était pas ni de l'argent ni de l'or, c'était une clé, une grosse clé. Et quand je lui demandais, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, cette grosse clé qui est tellement laide, elle disait, c'est la clé de mon château en Hispamia. Je ne l'avais jamais compris jusqu'à ce que je suis arrivée à vivre en Espagne. J'ai recherché le pueblo où avait grandi ma famille, qui ont toujours le même nom que le nom de ce village, Berlanga del Duero. Et puis oui, il y avait une famille juive qui avait cette maison-là, qui avait une grande porte, qui devait avoir cette grande clé.
Il y a près de 6 siècles, des millions de Juifs ont abandonné l'Espagne, obligés à l'exil, laissant tout derrière eux depuis longtemps. Le gouvernement espagnol s'acquitte d'une dette d'honneur en offrant aux descendants des Juifs expulsés la nationalité espagnole. Aujourd'hui, il a décidé de légiférer et d'encadrer l'obtention de cette nationalité d'après un certain nombre de critères. En Israël et partout dans le monde, la nouvelle a été reçue avec enthousiasme, curiosité, mais aussi scepticisme. L'avocat Paul Muga, à Barcelone, aide les familles à retrouver leurs origines séfarades. Pour certaines, ce sera difficile car il faudra en apporter la preuve.
C'est très difficile. Beaucoup de gens nous écrivent pour nous dire « je voudrais la nationalité espagnole parce que je crois que dans mon histoire familiale, nous en avons des traces. Pourtant, s'il n'y a pas de document, le gouvernement pourra difficilement le reconnaître. Mais cela rend justice à ceux qui veulent à nouveau se rapprocher de l'Espagne. Et surtout, cela rend justice à ces milliers d'Espagnols qui ont dû quitter le pays et à qui on donne, c'est la moindre des choses, le droit de choisir. »
Que reste-t-il de cette mémoire juive? Ceux qui n'ont pas quitté le pays se sont convertis, mais en secret, ont continué à pratiquer leur religion, c'est le crypto-judaïsme. On le sait peu, mais l'Inquisition n'a été abolie qu'au XIXe siècle. Mario Saban, de l'association culturelle Tarbut Sefarad.
Nous pensions qu'ils ignoraient tout, alors qu'en général, ils le cachent et connaissent leurs racines et leur nom d'origine. Beaucoup d'Espagnols ont des traditions juives cachées, comme cette jeune fille de 26 ans, originaire de Barcelone, qui est venue me voir et m'a raconté que sa grand-mère allumait les bougies pour Shabbat, le vendredi soir. Elle l'avait interrogée pour savoir si elle était juive et pourquoi alors elle ne fréquentait pas la communauté. La grand-mère avait répondu « Non, c'est très dangereux, ils vont savoir que nous sommes juifs. Nous avons toujours été juifs en secret. »
Nous sommes en 2014, mais la peur est toujours là. Elle se transmet de génération en génération. Alors on fait semblant en suspendant le jambon interdit par la religion à la fenêtre, en nettoyant sa maison le samedi, jour de Shabbat. Lucia est professeure d'histoire et chercheuse, originaire d'un petit village, Ichar. Elle veut y sauver la synagogue en ruine, devant laquelle chaque année, pour la Saint-Antonio, comme pour conjurer le passé, on fait retirer un cochon.
Ce que j'ai étudié, c'est le crypto-judaïsme des convertis, les traditions que l'on retrouve dans la société espagnole, comme l'abondance de la viande de porc dans notre alimentation, par exemple, ou encore certaines habitudes, comme le fait de travailler plus le samedi. Il s'agit d'éviter d'être perçu comme un juif. Plus que de l'antisémitisme, ça correspond à la peur de l'Inquisition. Ce sont des siècles de menaces. Puisque beaucoup de gens avaient un ancêtre juif, ils devaient être suspects.
Ce retour au pays des descendants des expulsés, d'après Lucia, est une excellente nouvelle pour l'Espagne.
Partout dans le monde, des gens ont des origines séfarades. Ils ont encore ce souvenir, cet amour, et d'une certaine manière ce lien avec le passé de leur famille en Espagne. Ces familles furent brutalement expulsées de leur maison, mais ils il y a eu en plus des conséquences néfastes au niveau culturel et économique pour la société espagnole durant 500 ans. Alors oui, je crois que c'est une dette, mais j'aimerais croire que c'est plus qu'un acte de propagande politique ou symbolique, que ça vient du fond du cœur.
Il n'est jamais trop tard, une page d'histoire peut se tourner. Pour des milliers de personnes, il y a peut-être l'espoir d'un retour sur la terre de leurs ancêtres.
En Finlande, il s'est battu pendant plus d'un an pour avoir le droit de porter son turban sikh au travail. Le chauffeur de bus indien de Vantaa, près d'Helsinki, vient d'obtenir gain de cause, Pauline Curtet.
L'affaire Gilles Sukhdarshan Singh commence en 2012, lorsque ce dernier se rend en Inde, dans sa région d'origine. À son retour en Finlande, il décide de porter son turban sikh, même lorsqu'il conduit les bus de la ville de Vantaa, en banlieue d'Helsinki. Pendant 2 mois, tout se passe bien, jusqu'à ce que l'opérateur des bus, Veolia, le prie de ne plus porter son couvre-chef, au motif qu'il ne fait pas partie de son uniforme de travail. Seulement voilà, Gilles Sukhdarshan Singh n'est pas du genre à lâcher le morceau. Il alerte les médias, le médiateur finlandais contre les discriminations, porte plainte auprès du tribunal administratif et contacte la police. Devant l'avalanche de rapports et de soutien en sa faveur, l'Association des sociétés de transport finlandaises s'est finalement mis d'accord avec les syndicats d'employés. Résultat, depuis fin février, Gilles et tous les autres chauffeurs de bus de confession sikh peuvent, s'ils le souhaitent, porter leur turban au travail en Finlande. Et si le chauffeur de bus est arrivé à ses fins, il ne veut pas s'arrêter là. Il prévoit à présent de batailler aux côtés de son fils pour que ce dernier puisse porter son turban lors de son service militaire. Jusqu'à présent, la question ne s'était jamais posée en Finlande. Gilles Sukhdarshan Singh espère bien contribuer à y répondre.
Just try it. Play the record over again right now.
Sa besace est remplie de pop européenne de qualité, à savourer tout l'été, Vincent Teval.
Asgeir, c'est un jeune Islandais originaire de Laugarbaki. C'est un tout petit village d'une cinquantaine d'habitants qui est situé au nord de l'Islande. C'est là que le garçon a grandi au sein d'une famille de musiciens. Lui-même apprend très jeune la guitare classique. C'est aujourd'hui l'un des éléments centraux de sa musique, souvent accompagné de sonorités électroniques. Et pour les textes, Asgeir est allé piocher dans les poèmes qu'écrivait son père. Son premier album est paru en 2012 en Islande et a rencontré un succès colossal. Cette année est sortie une version anglaise du disque dont les chansons ont été traduites par le chanteur américain John Grant. Mais je vous propose de rester sur la version originale avec Lane Darmal.
Grátur hvít og múr Nú berst frá rauðu húsi Læðast refa hjón Og lafir bróð kjafti lerk í skóurinn Hann fær nú margt að vita Þegar kóngurinn Er með kross í hendi koma
Festival de Vincent Teval, une trentaine de titres à savourer tout de suite sans modération sur notre page spéciale à l'adresse d'Accent d'Europe. C'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve demain pour d'autres morceaux choisis et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.